Yeah. Bien, alors on va parler de l'assainissement. Ce que les Bnei Israël ont dit quand ils ont accepté la Torah, ils ont dit Naaseh Venishma. Littéralement, nous allons faire et nous allons entendre. Par opposition à Shamanu Veasinu. C'est-à-dire que nous avons entendu et nous avons fait. C'est-à-dire, a priori, on entend d'abord, et après on peut faire. Dire Naaseh Venishma, il faut qu'on comprenne ce que ça peut vouloir dire. C'est pas parce que la question se posera toujours, ce Naaseh, il ne peut pas avoir lieu si on n'a pas un Shamanu qui le précède. Si on n'a pas entendu ce qu'il faut faire, on ne peut rien faire. Ce faire-là, il présuppose qu'il y a eu, avant qu'on ait fait, on a entendu ce qu'il fallait faire. Sinon, comment savoir ce qu'il fallait faire? De celui-là, on ne parle même pas. Parce qu'il est, évidemment là, avant le premier, avant le Naaseh. Sinon, on ne saurait pas quoi faire. C'est clair, ça. Alors, il y a un passouk qui dit, dans Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu dit, Vahi kishamachem et hakol mitoch hachoshech vehahar bo'er ba'esh. Et ce fut lorsque vous avez entendu la voix qui venait de ce hachoshech, de ces ténèbres qui enveloppaient le Sinaï. Vehahar bo'er ba'esh. Et la lumière, elle brûlait. Il y avait un feu brûlant. Vatikrevun elai kulchem, vatikrevun elai. Kol roche shiftechem veziknechem, vous vous êtes approchés de moi, tous vos chefs de tribu et tous vos anciens, va tomrou, et vous avez dit, hen, oui, voilà, heranu, Hashem Elokeinu et kvodo, Hashem Elokeinu nous a montré sa gloire, il a manifesté sa gloire, le feu sur le Sinaï, tout le son et lumière là de qu'il y avait au Sinaï. Ved Godlo, sa grandeur, Ved Kolo Shamanu, Mitochaesh, et nous avons entendu sa voix, son col, oui, sa voix, venant du feu, etc. Et vous avez continué, vous avez dit, Ve Ata, et maintenant, Lama Namut, pourquoi mourir, pourquoi devrions-nous mourir? Cet énorme feu va nous manger, il va nous brûler donc, etc. Et vous m'avez dit, Gravata, approche-toi, toi, Moshe, Ushma, et écoute, et kol asher yomar Hashem Elokeinu, tout ce qu'Hashem Elokeinu dira, ve'at, et toi, tedaber eleinu, toi, vata, tedaber eleinu, toi, tu nous parleras, et kol asher yedaber Hashem Elokeinu Elecha, tout ce qu'Hashem Elokeinu t'aura dit, v'shamanu, et à ce moment-là, nous entendrons, v'asinu, et nous ferons. Rashi explique sur, au lieu de marquer ve'ata, alef tav hei, c'est écrit ve'at. At Alef Tav seulement, qui est la forme féminine de Ata. ואת תדבר. Alors, comme c'est la forme féminine, alors Rashi rapporte, le Midrash, Hazal ont entendu, ça voulait dire, Itashtem et Kochi, Kenekeva. Vous avez affaibli ma force, et je n'ai plus de force, pas plus de force qu'une femme. Vous m'avez enlevé ma force virile, si on peut parler comme ça. Justement, on va voir. Chez Nitzta'arti Alechem, parce que j'ai souffert à cause de vous, ou Refitem et Yadi, et vous avez affaibli ma main, Kiraiti, parce que j'ai vu, chez Enam Charedim Leitkarev Elav Me'ahava, j'ai vu que vous ne vouliez pas vraiment vous approcher de lui. Par amour. Vechilo aya yafe lachem l'ilmod mi pi agvura. Velo l'ilmod mi meni. J'ai vu que ça ne vous plaisait pas tellement d'apprendre directement d'Hachem, ni d'apprendre de moi. C'est ce que la parole de Rashi. Donc, en fait, ce que Moshe Rabbeinu nous dit, c'est que c'est un désastre. Quand les Bnei Israël, après avoir entendu les deux premières paroles, se sont approchés de Moshe, ils ont dit, toi, va écouter et dis-nous, sinon on va mourir, etc. Rashi rapporte que Moshe Rabbeinu a trouvé que c'était arrivé. Vous m'avez complètement... Je suis tellement déçu que j'ai plus de force, quoi, quasiment. Katav Agra, le Gaon explique, oui, en gros, voilà ce qu'il a dit. Chez Adibour ou Adibour que Pachete. Veamira ou Lazbir chez Yavinu. Le Gaon explique que quand on parle d'un Dibour, d'un Vaïdaber, Diber Hashem, etc., alors c'est la parole. Quand on parle de Amira, les morts, Omer, Vayomer, etc., c'est expliquer de telle sorte que les gens puissent comprendre. Ou Moshe Rabbeinu Evin, et Moshe Rabbeinu a compris immédiatement, Tekef, Beba Adibour Elav. Il comprenait tout de suite. Quand la parole lui arrivait, Moshe Rabbeinu comprenait. Mais Aval Israël, mais les Bnei Israël, Lo Evinu Bedibour Levad. Ils n'ont pas compris avec la seule parole divine. Ad chez Moshe isbir lahem. Jusqu'à ce que, étant, ils n'avaient pas compris avant que Moshe leur explique les choses. Le kachamro, pour cette raison, ils ont dit, Vaidaber Hashem, c'est-à-dire Bedibour el Moshe, qu'Hashem parle Dibour à Moshe, qu'il parle directement la parole d'Hashem, directement à Moshe. Les morts, pour que Moshe, les morts, c'est la chaîne Amira. Les morts, c'est ce qu'il l'amène, et Aleph Memreish, c'est Amira. Sheyasbir lifnehem, sheyavinu, pour que Moshe Rabbeinu leur explique et qu'ils comprennent. Les kachamrou, pour cette raison, ils ont dit, kerav ata, ushma et kol asher yomar Hashem, kefi sheata mevin, et toi, tu vas entendre ce qu'Hachem dira, comme toi tu le comprends. Aval anachnu kayom, mais nous aujourd'hui, le madrega, nous à notre niveau, on ne peut pas. Avshata te daber lanu dibur be'alma, vavshelo navin otam, même si c'est toi qui nous parles un dibur, et même si en fait on ne comprend pas vraiment ce que tu vas dire, Afal piken veshamanu veasinu amitzvot. Venant de toi, même si on ne comprend pas, on écoutera ce que tu dis et on fera les mitzvot. Af shelo yadanu tam amitzvot, bien qu'on ne comprenne pas les raisons des mitzvot. Af shekan, et bien que ce soit marqué ici, veshamanu veasinu, shamanu, ça veut dire, c'est pas seulement l'ouïe. comme quand on dit, en français on dit plutôt tu vois, quand on explique quelque chose à quelqu'un, on lui dit tu vois ce que je dis, tu vois ce que je te, tu comprends. En la Shana Kodesh, on dit Ata Shomea, tu entends. Tu entends, ça, la Shmia, c'est Shema Israël, c'est comprendre, c'est pas simplement entendre. C'est une entendre, entendre au sens propre du mot entendre, c'est-à-dire à la fois le phénomène de l'audition et à la fois le phénomène de compréhension, l'entendement. Mais plus haut, Neymar Lefer, Sheikdimu Asiya le Shmia. Mais ça, c'est ce qu'ils disent dans le Sefer Dvarim. Mais dans Mishpatim, ils ont dit Nase Venishma. Aval al kol panim bemadrega gdola hayu sheamru veshamanu atzivui. Néanmoins, ils étaient à un niveau assez élevé. Ils disent, on entend, nous entendons le tzivui, la mitzvah, l'ordre. C'est-à-dire, l'ordre, c'est le dibour. N'est-ce pas? Un ordre, c'est une parole dure, c'est une parole. C'est pointu. La Amira, c'est rond, c'est arrondi, si vous voulez. Amira, ça commence par les mêmes lettres que la mer. M. La mer, c'est donc la rondeur, la douceur. Véasinu. On entendra le dibour, le tzibouï, et on fera. Afshelo shamanu atam. Bien que nous n'ayons, on a entendu, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris le tam. Arekanik dim shmiya la asiya, sheadain lo yishmiya la em atam, vafal piken véasinu. Ce qu'on voit ici, qu'ils disent, on voit, ils vont dire shamanu véasinu. Or, il ne leur a pas expliqué encore le tam, cher Rabbeinu. Et néanmoins, ils disent, versine, mais on fera. Donc, on voit du Gaon, de Keshe Bikshu mi Moshe Rabbeinu. Quand ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de leur faire entendre la parole d'Hachem. La Hashmi alaim diburo, il barra. Igdimu asiya le shmiya. À ce moment-là, ils ont dit d'abord, on fera. Et après, on entendra. Et bien qu'il soit à ce moment-là un haut niveau, puisqu'ils étaient d'accord de faire, même sans savoir le terme des choses. Ce n'est pas qu'ils disaient, tant qu'on n'a pas compris, on ne fera pas. Ils sont au niveau de l'obéissance absolue parce que ça vient d'Hachem.
Pourquoi c'est le premier de Moshe Rabbeinu, pas directement?
Parce que justement, ils disent, la manamout, on va mourir, ils mouraient quand ils entendaient la parole d'Hachem directement. Oui, pas de souci. Justement, ils ont pensé que ça marchait deux fois, on ne va pas risquer une troisième fois. Ah, de marquer, il y a aussi deux, c'est assez, trois, c'est trop, c'est pas.
Comment ça se fait déjà qu'ils étaient dans cette position de savoir qu'il y avait une assia, puisque viendrait la parole de.
Ça, je pense que ça, ils l'ont compris tout seul, que la parole, elle ne venait pas, l'ordre, si on veut, c'était de faire. Et de toute façon. Va ushrash beze bitul be dargat naase venishma. Il y a déjà la racine de s'effacer quasiment devant l'ordre d'Hachem quand ils ont dit naase venishma. Vous alder chez Mache Piresh Rashi, c'est comme Rashi a dit, chez Moshe Rabbeinu leur a dit, itashtem kochi kinikeva. Vous m'avez affaibli. Je suis comme une femme maintenant. Il faut donc comprendre pourquoi le niveau Naase Venishma a à voir des dépendants d'une écoute directe venant d'Hachem. Nasev Nishma, ça veut dire on est prêt à écouter ce qu'Hachem dit. Tandis que si on n'est pas prêt, alors on ne peut pas dire Nasev Nishma. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que cette différence si on entend d'Akadosh Baruch Hu ou si on entend d'Akadosh Baruch Hu à travers Moshe. Quelle est la différence finalement? A priori, Ikara Inyan de Nasé avant Nishma, d'après ce qu'on a compris, Nasé avant Nishma, c'est être d'accord et accepter sans qu'on connaisse le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire on ne sait pas exactement pourquoi il faut le faire, on est d'accord. Donc ça, peu importe qu'on ait entendu directement d'Hachem ou qu'on ait entendu d'Hachem à travers Moshe, puisqu'on est d'accord de faire, même sans avoir compris le fond de l'affaire, alors il dit comme ça, au moment où les Bnei Israël étaient au Sinaï, ils ont retrouvé le niveau d'Adam Arishon avant la faute. L'Agmara le dit explicitement. Israël, Shamdou al-Har Sinai, Pascal Zohamatan, les Israël qui étaient au Sinaï, la Zohama, c'est-à-dire la trace du serpent dans Chava et dans l'humanité, a disparu. Sauf que, Akata lo igia ha'olam le tikuna bishlemut, mais il aurait fallu qu'il ne faute pas avec le Hegel, à ce moment-là, le monde aurait été complètement metoukan, il aurait été complètement arrangé comme il le fallait, on serait arrivé à la fin de l'histoire. Donc. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mérité les premières luchot. C'est-à-dire, puisque le but de la création en fait, n'est atteint que lorsque on accepte, il y a acceptation des luchot abrit, des luchot de l'alliance, des termes de l'alliance. Il ne suffit pas d'avoir entendu les Aseret Adibrot. On pourrait se dire, mais ça suffit, on a entendu Hachem parler. Qu'est-ce que ça change que Moshe Rabbeinu nous donne les luchot ou qu'il ne les donne pas? On a entendu et on a accepté qu'Hachem a dit quand il a parlé. Plusieurs fois, les Chachamim expliquent que si les premières luchot n'avaient pas été brisées, on n'aurait rien oublié de la Torah. Et il n'y aurait eu aucun peuple et aucune langue qui aurait pu dominer les Bnei Israël. Donc, en fait, de la même manière qu'Adam Arishon devait arranger le monde en faisant le travail qui lui avait été confié, sur le Gan Eden, c'est marqué, Hachem l'a installé là-bas, le Ovda ou le Shomra, pour travailler et pour garder le Gan Eden. Le Ovda ou le Shomra, ces deux verbes-là, on dit que ça correspond au mitzvot Asé et au mitzvot Lota Asé. Le Ovda, le travail, c'est les mitzvot Asé, c'est ce qui est à faire. Et le Shomro, dans la Torah, c'est marqué des fois, Ishamer lecha, prends garde, etc. Ça veut dire que c'est interdit. Prends garde à cela, ça veut dire que cette chose-là est interdite. C'est les mitzvot lotase. Malgré tout son haut niveau, Adam Arishon, ce niveau, il l'a perdu. Le Nahash et le serpent s'est adressé à Chava et il a introduit en elle cette fameuse Zohama cette espèce de pourriture en quelque sorte, cette mort, cette forme de mort. En fait, dans la deuxième version du problème d'Adam, c'est la deuxième version d'Adam, c'est le Sinaï. Les hommes se retrouvent dans la situation d'Adam Arishon avant la faute, et leur travail, c'est aussi de garder leur haut niveau, un niveau dans lequel il n'y avait pas de Zohama, il n'y avait pas cette pourriture qui est en fait, on peut dire, une forme de mort. C'est ça qui les rend mortels, en fait. Ça, c'est le Nahash, c'est d'avoir cédé au Nahash. Ça, c'est Hachem qui les a artificiellement portés jusqu'en haut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tenu le coup, d'ailleurs. Certains disent que... Lo'amdu banisayon. Mais ils n'ont pas tenu le coup dans cette épreuve. Ils ont fait le chet ha'egel et donc tout est retombé. En fait. Évidemment, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter les louchot va donner un an plus par rapport à accepter avoir reçu les paroles de la Torah, la Seret HaDibrot. Ils ont entendu les paroles. Après, il fallait que Moshe monte pour recevoir les louchot et qu'il les descende. Donc il est allé, il les a reçus, mais quand il s'est agi de les donner aux Israël, il y avait entre temps il y a eu le Hegel et Moshe Rabbeinu a décidé de briser les louchot. Donc les Israël n'ont pas reçu les louchot entières, en tout cas on a récupéré les brisures, elles étaient dans le Aaron, elles étaient dans l'arche, mais sous forme de brisures. Donc Moshe Rabbeinu n'a pas pu leur donner les louchot. Ce n'est pas une faute basique. Reposez la question à la fin. Si on essaie d'expliquer un peu de quoi il s'agit, dans le Zohar, il est rapporté que quand il est dit sur les louchot, que les louchot étaient Mirtav Elohim. C'était l'écriture d'Elohim. Je m'avais dit, c'est moi qui écris sur les louchot. Ça veut dire que les dibrot atzman nerkeku venerretu baluchot. Bien entendu, il n'y a pas de différence entre l'écriture par rapport à Hachem et la parole. Ça veut dire que quand Hachem dit c'est moi qui écris, sous-entendu, c'est pas Moshe qui va écrire, mais c'est moi qui écris, ça veut dire que les paroles qu'Hachem a dites se sont gravées dans les louchot. Pardon ? Peut-être, oui. Alors, si vous voulez, on pourrait dire, voilà, les paroles se sont gravées elles-mêmes dans les louchot, un peu comme aujourd'hui, quoi. Ce que je dis se grave là dans les poteaux de la maison. Tel que vous me voyez. Bon, c'est vrai que si vous parlez, ça sera exactement la même chose, mais c'est et non seulement les paroles, mais si je fais ça, ça se grave aussi dans les poteaux. Seulement, c'est difficile à lire. Mais c'est gravé, c'est là. Il y a des ondes qui vont et qui collisionnent ici et là, un peu partout. Et ça se grave. Chose problème pour les lire. Pardon ? Ça viendra. Oui, c'est marqué. C'est marqué que, comme dans le monde d'en haut, on est jugé selon les mêmes procédés que dans le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il faut des témoins. Alors, Razal demande, mais qui va témoigner de ce que j'ai fait quand j'étais tout seul dans la pièce ? On dit, c'est marqué, les poutres de ta maison vont témoigner. Parce que les gestes que tu fais se gravent sur les poutres de ta maison. Les paroles que tu dis se gravent sur les poutres de ta maison. Il faut un bon laser pour lire. Je vois qu'il doit avoir ce genre de laser. Même si nous, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là.
Qui est-ce qu'il a, ce laser ?
Hachem. Donc, le Zohar dit que les paroles elles-mêmes se sont gravées dans les Luchot. C'est-à-dire que, après que la parole ait été émise, si on veut, par Akadosh Baruch Hu, cette parole elle-même existe dans les Luchot. Cette parole, c'est gravé, donc il y a cette réalité de la parole dans les Luchot. Certains veulent dire que quand on dit par la suite que les Bnei Israël roïm et akolot, ils voyaient les colottes, on les voyait parce que c'était les paroles, les colottes se sont gravées, donc elles étaient visibles. Roïm et akolot, ça veut dire qu'en fait c'est vrai que même on n'a pas l'habitude, mais normalement on pourrait voir tout ce qu'on dit, on pourrait le voir en lisant la trace de ce qu'on dit, enfin l'effet de ce qu'on dit sur les poutres de la maison. On a des petits problèmes pour y arriver, mais on peut voir. On sait aujourd'hui très clairement que on pourrait le voir. Dans le Zohar, il dit le Zohar, la chaîne du Zohar, c'est comme ça, c'est le suivant. Veshata de Kutchab Rihu Idgali, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Veshari le Malala, et il a commencé à parler. Il a invetatain, les créatures d'en haut et d'en bas. Itral Chlou, Venafku Nishmotehen de Israël. Ils ont été troublés, comme, c'est le même mot que Vatitral Chal Amalka. Esther. C'est-à-dire qu'elle a été complètement bouleversée. Ve nafku nishmotan d'Israël. Et les neshamot d'Ibn Israël sont sortis. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Ve ta'ana. Aumila ava tas mile'ela letata umit galfa. Et donc, on a appris que ce mot qui a été dit, il vient d'en haut vers le bas et il se grave Barbaruche Alma sur les quatre, dans les quatre directions du monde. Vaster Besacharinun d'Israël Vetavad Beon Nishmaton, et ça tourne autour d'Israël. Il y en a dans les quatre côtés, donc ça veut dire que ça entoure complètement Israël. Et ça ramène la neshama des Bnei Israël en eux. Va'astar ou megalfa be'atrei beluche avna. et encore, ça entoure effectivement les louchot. Cette parole, elle tourne autour des louchot. Et ça s'inscrit dans les louchot. Et d'ailleurs, cette parole-là, elle se dévoile de 70 manières, de 49 couronnes de ce côté-là, 49 de l'autre côté. Ve'nimtza mefurash shekol dibur hu gilui shel metziut. Ça veut dire que toute parole est le dévoilement d'une réalité. Comme c'est marqué ici dans la suite du Zohar, que toute parole était pleine de tous les ta'amim, de toutes les raisons, tout ce que ça pouvait vouloir dire. Cholinyane gzerot, sachar ve'onesh, sodot, nistarot, kibetot sar she'umale me'akol. C'est comme un grenier qui était complètement plein. Ça veut dire que chacune des paroles qui a été dite, elle était pleine de tout ce qu'on allait pouvoir, au cours des siècles, au cours de l'histoire, de tout ce qu'on allait pouvoir en déduire, de tout ce qu'on allait pouvoir construire à partir de ces paroles-là. C'est en cela qu'on dit que les premières louchot, toute la Torah chez Baal Peh était inscrite dans les premières louchot. Donc il n'y avait plus de travail à faire, c'était là. Il suffisait de le lire. Ça veut dire en fait que quand Chazal disent que Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ubara alma, et quand Akadosh Baruch Hu, Chazal disent qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde d'après la Torah qu'il avait observée, c'est-à-dire il a écrit la Torah, ensuite il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que il n'y a pas d'autre réalité, vraie metziut, en quelque sorte, que la Torah. Et toute la création, c'est en quelque sorte une actualisation de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'Hachem a créé le monde, et puis il y a la Torah. D'accord ? Il faut entendre que le monde créé, même les mondes créés, si vous voulez, sont des actualisation, c'est-à-dire des concrétisations de la Torah. Si vous voulez, ça, concrètement, pour nous, ça veut dire, ça se traduit de la manière suivante. Quand vous faites une mitzvah, ça veut dire, vous faites une mitzvah d'achilat matzah. C'est-à-dire, on mange la matzah. Alors, il faut bien comprendre que la matzah, et moi qui mange la matzah, je dois me considérer comme si j'étais la prolongation ou la réalisation concrète du verset qui dit « Tu mangeras des matzot ». Ce n'est pas un ordre qui me vient, et puis je suis indépendant de cet ordre, simplement j'obéis à l'ordre. Je ne suis que... Et le monde de la mitzvah en question est le prolongement. C'est simplement comme quand quelque chose s'actualise, n'est-ce pas ? Vous avez quelque chose qui est potentiel et ça s'actualise. Un exemple de quelque chose qui était là potentiellement et qui va s'actualiser, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est un être humain, qui est capable d'avoir des enfants, et cette capacité d'avoir des enfants va s'actualiser en ayant des enfants. Mais avoir des enfants, ce n'est pas différent de la potentialité d'avoir des enfants. C'est simplement cette potentialité qui s'est actualisée. Ce n'est pas quelque chose de différent. Pardon, c'est... Comme un achat sur Internet, explique. Enfin, j'ai acheté quelque chose. Ça, c'est potentiel. Il y a une potentialité. Là-bas, c'est peut-être même plus que ça, puisque ça m'appartient. Déjà. Non, toute potentialité, ça veut dire le fait que qu'un bourgeon, si tu veux, est une potentialité de fleurs, il faut des conditions pour que ce bourgeon devienne une fleur. Il faut de la nourriture qui va lui venir par, disons, la tige ou par l'arbre. Et puis il faut un environnement favorable, etc. Un ensemble de conditions. On peut aussi voir ça. On peut même voir que lorsqu'il y a un embryon, la première cellule dans le corps humain, dans le ventre de la mère, cette première cellule, pour qu'elle se développe, etc., il faut un ensemble de conditions. Il va falloir, pour que le corps humain se développe totalement, un ensemble de conditions pour que cette potentialité se réalise. Le Rambam, par exemple, quand il parle du Mashiach, il dit, ben voilà, quelqu'un qui il commence à faire des choses dont on sait que ce sont des choses que le Mashiach va faire. Il n'est pas encore le Mashiach. Il est, on pourrait le considérer comme un candidat Mashiach. On va voir si ce candidat satisfait toutes les autres conditions pour devenir le Mashiach. Et à la limite, on ne saura pas, avant qu'il le soit complètement, qu'il est Mashiach. On verra des choses, mais ce n'est pas sûr. Il y a probablement eu des situations dans lesquelles, quand on dit que Bikshu la'asot Hizkiyahu Mashiach, Chazal disent qu'on a voulu faire du roi Hizkiyahu Ézéchias le Mashiach. Pourquoi ? Parce que de son temps, la Torah a été apprise par tout le monde, etc. Et puis il n'a pas dit Shira, quand il a gagné la guerre, il n'a pas su remercier Hachem, il a perdu. Donc on était un poil de la... Il aurait su exprimer sa reconnaissance à Hachem, il serait devenu Mashiach. Pourtant, Bikshu la'asot, on a voulu le faire de lui, donc il y avait un développement. On pouvait probablement que juste avant qu'il fasse la guerre en question, les bookmakers à Londres, ils ont sûrement parié qu'il allait devenir Mashiach. C'était presque... Enfin, tout était là, quoi. Il y avait encore une guerre à faire, qu'il allait gagner, et il fallait qu'il reconnaisse que c'est Hachem qui a gagné la guerre. Il n'a pas été capable. Donc, tout s'est effondré. Il y avait donc une potentialité. C'est ça. C'est un candidat avec ses potentialités. Et puis, ça s'actualise ou ça ne s'actualise pas. Donc, ce que je disais sur la mitzvot, il a dit ici sur le monde. Le monde, c'est l'actualisation de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'actualisation? On a déjà dit, c'est par exemple le fait que on aurait tendance à penser que la mitzvah de Kibud Av Va'em, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel il y a un père, il y a une mère, et qu'un enfant, il naît de la rencontre, de l'association du père et de la mère avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que l'enfant naît. Du coup, comme il est né deux parents, alors il a une mitzvah de Kibud Av Va'em. C'est comme ça qu'on l'entend, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout faux. C'est pas comme ça. C'est parce qu'il existe une mitzvah de Kibud Av Va'em. Où est-ce qu'elle existe, cette mitzvah? Elle existe dans le texte de la Torah. Et maintenant, évidemment, cette Torah que nous avons, nous, c'est une Torah qui s'est justement actualisée dans ce monde-ci. La Torah, elle vient de tout en haut. Tout en haut, il n'y a pas ni père, ni mère, ni fleurs, ni porc, ni chevreaux, ni lait, etc. Comme dit Ramban, tout en haut, la Torah, c'est entièrement des noms d'Hachem. C'est des noms d'Hachem. Ces noms d'Hachem se réalisent, s'actualisent dans chacun des mondes à travers lesquels la Torah descend, Bon, elle vient de tout en haut, de la Hatzilut. Hein. Elle passe par les mondes de la Bria, de la Yetzira, jusqu'au monde de la Asiya, qui est notre monde. La Torah, elle prend des vêtements différents. Nous, on n'a pas à connaître ces vêtements parce que ça ne nous concerne pas. Mais ce que nous avons, nous, c'est la Torah telle qu'elle s'est actualisée, si vous voulez, dans notre monde. Et donc, ce texte de la Torah, c'est pour ça que le texte de la Torah en tant que tel, on pourrait dire, il n'existe pas vraiment tant que nous n'avons pas, tant qu'on ne tient pas compte des hommes qui reçoivent cette Torah et qui ont une tradition qui va leur dire comment ils vont la lire. Parce que je vous dis tout le temps que la Torah, ce n'est pas un livre, etc. Et que, pourquoi ce n'est pas un livre? Parce que ça dépend de la façon dont nous allons la lire, de la façon dont nous allons mettre des points, des virgules, des ponctuations et les voyelles, etc. Certains espaces sont donnés.
Non, mais je veux dire,
on va aussi fabriquer des mots. Vous pouvez imaginer, ça nous on n'a pas. Les mots, on les a dans le texte. Originalement, il n'y avait pas de mots. C'est la halakha. C'est nous qui décidons. C'est toi qui as décidé. Oui, le ciel n'a plus le droit d'intervenir. Mais oui, c'est paradoxal. Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Le ciel, Abel Hazar, il a voulu apporter des preuves du ciel. Apporter des preuves, il a dit ben, voilà, que le monde, que je vais montrer que on maîtrise le monde, que le monde va maintenant témoigner dans mon sens. Les murs vont se pencher, le ruisseau il va remonter à sa source. Ah, mais Yahshua ben Lévi, non ? Il a dit, on n'en a rien à battre de tout ça. Tu nous as donné la Torah, l'eau ma shamaï, mais elle n'est plus dans le shamaï.
Mais là, on parle de la Torah.
Si, on parle de la Torah.
La Torah, je
parle tout à l'heure. C'est toujours la même. C'est la même. Bien sûr, c'est la même. C'est la même qui s'est réalisée différemment. Parce que Ilan, oui, hier, il était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le Ilan d'aujourd'hui, il n'a pas les mêmes cellules que celles qu'il avait hier. Et il y a 7 ans et aujourd'hui, vous avez perdu toutes vos cellules. Sauf quelques cellules, je crois, dans la rétine et dans le foie. Vous n'êtes plus du tout le même, hein, Ilan. Je crois que vous avez changé. D'accord. C'est ça. Mais ça, c'est le cas de tout le monde. Et pourtant, il y a une pérennité. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est dans ce monde-ci, il y a d'autres cellules qui vont prendre la place, etc. Oui, bien sûr. Oui, elle est tout à fait au-dessus du monde, mais elle descend. Hachem veut qu'elle descende, justement, et qu'elle gouverne le monde le plus bas. Parce que ça veut dire qu'il y aura un Kiddush Hashem dans tous les mondes. Qu'il y ait un Kiddush Hashem tout en haut, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on confronte, en quelque sorte, la Torah à toutes les situations concrètes, et que là aussi, on arrive à faire en sorte que la Torah s'impose, qu'elle soit reçue, complètement acceptée. C'est pour ça pourquoi il fallait accepter la Torah. On n'avait qu'à nous l'imposer, puis point barre. Est-ce qu'on nous a demandé si on voulait respirer ou pas ? On ne nous a pas demandé. On respire. Non, le contraire. Non, le contraire. Le monde a été formé de telle sorte qu'il soit le lieu où la Torah va pouvoir s'actualiser. Alors, c'est la Torah. La Torah est potentielle. Quand quelque chose doit s'actualiser, c'est que c'est potentiel et il faut que ça se réalise. Pour que ça se réalise, il faut un écrin. il faut un support. Alors, le support, il est exactement comme l'écrin d'un bijou, si vous voulez. L'écrin du bijou, ben voilà, il est fait pour recevoir le bijou. Donc, il est le lieu dans lequel le bijou va pouvoir se poser. Mais il faut qu'il soit... Oui, c'est ça. Mais ce monde n'est pas donné avant. Il n'est pas donné avant. Il est fabriqué pour. Il est fabriqué pour que la Torah puisse s'actualiser dedans. C'est-à-dire qu'il y a... Akadosh Baruch Hu a créé un homme, une femme, et la reproduction telle qu'elle est, pour que l'être humain puisse donner... Enfin, pour qu'on puisse actualiser la mitzvah de Kibud Av Va'em. On ne peut pas remonter si facilement que ça. Hein. Non, on ne la connaît pas, cette Torah. Il y a des choses qui sont... Ouais, il y a des choses qui... Mais tout y est, mais c'est caché. Il y a des parties qui sont restées cachées, qui ne se sont pas actualisées de façon visible. Oui, nous ne pouvons pas. L'être humain, il ne peut pas. Cette Torah-là, on ne la connaît pas. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il l'a fait en regardant la Torah. Donc on a dit, c'est parce que, enfin, ça indique que la vraie metziut, la vraie réalité, c'est la Torah. Et à Matan Torah, le monde, la création, s'est renouvelée. Encore une fois, et elle s'est renouvelée de la façon parfaite. Et c'est pour ça que toute parole s'est dévoilée avec tous les détails, etc., parce que tous les détails dans le monde se sont mis en place, en fait, comme prolongation de la Torah, si vous voulez, comme actualisation de la Torah. Rabbi Yehoshua ben Levi dit dans la Gemara dans Shabbat que kol dibur ve dibur sheyatzam pi HaKadosh Baruch Hu nitmale kol haolam kulo bashamayim. Le monde entier c'est rempli en quelque sorte. Alors là, il dit, mais comment c'est possible? Dès qu'il a dit la première parole, c'était plein. Alors où est-ce que la deuxième parole est allée, puisque chaque parole a rempli le monde? Et la Gemara dit que Otsia Kadosh Baruch Hu Aruach Meotzerotav Vaya Mavir Rishon Rishon. Kadosh Baruch Hu a sorti de sa réserve un vent qui a fait passer les dibourim, c'est-à-dire que le monde était plein, hop, il a envoyé un mont, il a envoyé du vent qui a chassé et qui a permis au deuxième dibour de remplir. Rashi explique où est-ce que ça l'a chassé dans le Gan Eden. Et on voit que dans la Sefer Gemara que la Metziut, la réalité en haut, d'en haut du Gan Eden, c'est dévoilé dans ce monde sur chacune des paroles divines, parce qu'il l'a mis dans le Gan Eden. Là-bas, c'est infini, quoi. Donc, on déplace ce monde ici, mais il y a sur la place. Au moment de la création, enfin, au sujet de la création, le pasouk dit Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole d'Hashem, les cieux ont été faits. on explique que la Metsiout elle-même, la réalité elle-même, c'est la parole. La parole d'en haut. C'est marqué dans le pasouk. L'olam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. Pour l'éternité, Hashem, ta parole est là dans le ciel. Sauf que les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé, ces 10 paroles sont descendues et elles ont donné lieu au monde tel que nous le connaissons. Mais au Sinaï, quand il y a eu ce renouveau du monde, au Sinaï, cette fois-ci, ce n'est plus les 10 paroles de la création, c'est les 10 paroles qui ont été dites au Sinaï, qui se sont dévoilées avec leur perfection, et le monde, qui était le monde de la nature, a complètement disparu devant le monde qui a été produit par ces 10 paroles, ces 10 nouvelles paroles en fait. C'est-à-dire que la réalité d'en haut des 10 bourim, des 10 paroles de Aseret HaDibrot, est venue et a saisi le monde et l'a transformé. Et c'est ça qu'on veut dire. Bidvar Hashem, par la parole d'Hashem qui est arrivée jusqu'à Shamaim Naasu, ça veut dire cette parole, le Dvar Hashem est l'auteur du ciel. En fait, c'est la parole d'Hachem, c'est avec cette parole que le ciel a été fait, fabriqué en fait. Alors bien sûr, nous on ne peut pas comprendre ça effectivement. Parce que c'est la chose elle-même qui était là. C'est pas l'écho de cette chose-là, ou c'est pas des effets de la chose. C'est la parole elle-même qui est devenue le monde.
Comment on peut réfléchir à ça par rapport à ce qu'on dit de la Rabbi Nachman, qui parle pas seulement de parole, mais qui parle de
Tzimtzum. C'est autre chose. Tzimtzum, ça c'est la contraction. Ah, c'était un Mahamar, c'est-à-dire c'est justement la différence, c'est que la création c'est une Amira, c'est Mahamar, c'est pas des Dibrot. Il y a une différence entre Asara Mahamarim ou Mahamarot et Asereta Dibrot. Avec les, comme on a vu, un Mahamar c'est plutôt explicatif, c'est rond, c'est doux si vous voulez, et le Dibour c'est pointu. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait presque parler d'une certaine violence. C'est comme si, dans la création du monde, elle s'est faite sans violence. C'est Mahamar. C'est doux. Et les Aseret HaDibrot, justement, comme les Aseret HaDibrot viennent dans un monde existant et le transforment, ça lui fait violence. C'est comme vous venez avec une charrue pour labourer, ça fait violence à la terre. On va la retourner pour retourner la terre pour. On va mettre l'intérieur à l'extérieur pendant un certain temps. Mais non, il est retombé maintenant. Mais justement, il est retombé. Il a complètement changé et ça n'a pas tenu. Oui, mais qu'est-ce que ça change, que ça prenne. Même si ça. Vous comprenez bien qu'un changement il peut prendre un nanoseconde ou encore moins. Oui, il a changé. A changé le monde complètement, jusqu'au Hegel. Le monde est devenu parfait, il s'est mis en place de façon parfaite. Le monde était exactement ce qu'il fallait qu'il soit. Mais personne ne disait, mais c'était fait pour durer. C'est nous qui n'avons pas tenu le coup. Le monde, il n'était pas fait pour être détruit par le Hegel. Les Bnei Israël ont accepté la Torah et donc s'installe une situation dans laquelle les Bnei Israël reçoivent les fameuses couronnes du Naaseh Benishma, etc. Il y a tout ça. Le monde trouve sa perfection. Et seulement, le problème de la durée s'est posé. Ça n'a pas duré. C'est-à-dire que c'est toujours un problème de durée. Même la mère de Napoléon ne savait, pourvu que ça dure. Hein? Elle savait. Je ne suis pas sûr que ça va durer. Ça n'a pas duré non plus. Je veux dire. La Bérésina et l'interlo. Et voilà. Chaque mitzvah qui est vraiment faite, elle met la partie du monde qui lui correspond dans la bonne position. Seulement pour qu'elle puisse être dans la bonne position, c'est un tout. Donc dès lors que tout n'y est pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les à ce moment-là, ce qui n'a pas marché, c'est qu'ils n'ont pas écouté les 10 paroles jusqu'au bout. D'Hachem. Puisque ce qu'on nous a expliqué, n'est-ce pas, c'est que quand la première parole a été dite, le monde s'est mis en place de façon parfaite par rapport à cette première parole. Et ça veut dire que, ça se dit aussi, les Bnei Israël qui étaient morts de cette première parole, ils sont morts à la condition antérieure qui était la leur, et ils renaissent avec cette fois-ci dans le cœur la première parole. C'est-à-dire, le Anochi était en eux. Leur émouna que Hachem les a sortis d'Égypte, c'était en eux. Ils ont entendu la deuxième parole qui leur a interdit Lo yelcha et Lo imacherim, tu n'auras pas d'autre, etc. Comme ils sont morts en entendant ça, ils ont ressuscité et Lo yelcha était en eux. Alors tu me demandais si Lo yelcha, l'interdit de était en eux, comment ils ont pu faire le Hegel? Le Hegel, parce qu'ils n'avaient pas tout entendu d'Hachem. Ça formait un tout. Ces 10 paroles, comme les 10 Mahamarot, c'est ça, ce 10-là, les 10 plaies, ça forme un tout. Et il manquait, pour que tout soit en place définitivement, il aurait fallu qu'ils écoutent. C'est pour ça que mon cher Rabbi nous dit, c'est terrible, vous m'avez affaibli complètement, je vois que vous ne voulez pas écouter, etc. Hachem va dire, Alvaï, qu'ils écoutent. Hachem va dire autre chose, mais c'est ça, c'est le désastre, c'est ça. Le désastre, c'est qu'ils n'ont pas écouté la suite d'Hachem. Et donc les autres paroles ne se sont pas gravées de la sorte. Et quand il n'y en avait que deux, alors c'est pas que, n'est-ce pas, le Hegel ne s'est pas présenté comme de l'idolâtrie tout de suite. Le Hegel s'est présenté comme autre chose, comme il fallait représenter ce qui nous avait sorti d'Égypte, c'est Yosef, etc. Et la grande faute des Bnei Israël ici, c'est qu'ils se sont laissés dicter la conduite par le Erev Rav, par des Égyptiens qui étaient venus se joindre aux Bnei Israël, et qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu de ne pas accepter. Et Moshe Rabbeinu a dit, moi je les vois sincères, je les prends. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est marqué qu'à Matan Torah, le Erev Rav, il était derrière, il n'était pas tout devant. Il était derrière. Mais quand on a fait le Hegel, ils sont venus devant, les Bnei Israël, ils se demandaient comment est-ce qu'on va donner du kavod à ce truc-là, ce machin qui a émergé là. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors le Erev Rav est venu, il a dit, mais nous on sait. Et ils auraient dû dire, mais non, vous savez rien. Vous êtes des anciens idolâtres, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez nous entraîner. Les Bnei Israël se sont laissés entraîner. C'est une grave faute. Mais en quelque sorte, ils n'ont pas su. Parce que tout le problème de... Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu voulait les accepter? Parce que Moshe Rabbeinu, il pensait que la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte, il fallait la modeler sur la Géoula finale. Dans la Géoula finale, tous les peuples auront reconnu Hachem. Donc Moshe Rabbeinu dit, ben voilà, puisque eux ils reconnaissent, ben il faut les prendre. Et Hachem dit non, ils ne sont pas sincères. On n'en est pas là. La sortie d'Égypte, elle aurait dû se faire entre juifs. On n'aurait pas dû accepter les rêves. Et Moshe Rabbeinu a pensé autrement. Il s'est trompé. Et c'est ce qu'Hachem lui dit. Quand Hachem lui dit, l'ech red qui shichet amcha, quand Moshe Rabbeinu est sur le Sinaï et que les Bnei Israël font le Hegel, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va, descends, ton peuple s'est fourvoyé. Amcha, il lui dit. Et Moshe Rabbeinu lui dit, comment amcha? C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Hachem dit, non, c'est le tien. C'est le Révrav, c'est ton peuple à toi. C'est le Révrav qui a entraîné tout ça. Mais bien sûr, on ne peut pas dire c'est la faute du Révrav, point barre. C'est vrai que le Révrav, ils ont dit ce qu'ils étaient capables de faire. Mais les Bnei Israël, qui étaient majoritaires, ils auraient dû donner le ton. Le grand problème, c'est toujours, tu peux accepter les étrangers. Mais il faut que ce soit toi qui continue de donner le ton. Si quand tu mets les étrangers dans une société, ou etc., c'est eux qui donnent le ton, ben c'est fini. Tu n'es plus chez toi. Quand on met les étrangers chez soi, il faut qu'on soit le balabait, ou alors que ce soit des chachamim. C'est marqué dans Pirkei Avot. Le balabait, il est au pied des chachamim, dans sa propre maison. Et parce que c'est les chachamim. La maison est un lieu où la Chokhma va s'enseigner, alors il peut se mettre à leurs pieds. Mais il est exclu de se mettre au pied des invités. Les invités, les étrangers, bon, ils doivent se sentir chez eux, mais ce n'est pas eux qui doivent donner le ton. Qu'est-ce qui doit créer l'ambiance dans la maison? Ben c'est le balabait. Les Bnei Israël auraient dû créer l'ambiance. Ils se sont laissés dicter l'ambiance par les rêves, c'est ça leur faute. Mais le monde s'était mis en place pour la perfection. On peut comprendre donc que les louchot, donc dans les louchot, la parole s'est gravée dans les louchot. Les louchot, c'est Olam Hazeh. Comme c'est marqué, Ve'aluchot ma'ase Elokim hema. C'est un ma'ase d'Elokim. C'est-à-dire, le shoresh, la racine, elle vient me'olam ha'ma'ase, du monde du ma'ase, du monde d'en bas. Et le but, c'est que le dibour, la parole divine, qui vient d'en haut, se lie avec ce ma'asé, avec l'action, avec le monde de l'action. Puisque la volonté d'Hachem, c'est justement que la Torah soit donnée au monde d'en bas, donc au monde de l'action. Pour que la lumière d'en haut éclaire jusqu'en bas, jusque dans les profondeurs les plus profondes. C'est ça l'argument d'ailleurs que Moshe Rabbeinu a opposé aux Malachim, quand les Malachim ne voulaient pas le laisser prendre la Torah, la Gemara dans Shabbat, il leur a dit, mais vous avez un Yetzer Hara, vous? Puisque la Torah elle parle keneged le Yetzer Hara, elle parle en tenant compte du Yetzer Hara, hein. Alors une Torah, vous qui n'avez rien à voir avec le Yetzer Hara, vous n'avez pas de Yetzer Hara, la Torah ne vous concerne pas. Donc on voit que la Torah se dévoile. La Torah n'a pu descendre dans le monde que grâce au Yetzer Hara, si on peut parler comme ça. Puisque c'est l'argument que Moshe Rabbeinu a fait valoir au Malachim, qui ne voulait pas lui laisser prendre la Torah. C'est en cela que la perfection de la totalité du Matan Torah se faisait, s'est faite avec les Luchot plus qu'avec les Aseret Adibrot. Pourquoi est-ce qu'il fallait les Luchot? Pourquoi les Aseret Adibrot ne suffisaient-elles pas? Justement parce que la façon dont la Torah d'en haut va descendre dans le monde d'en bas, c'est dans la gravure, dans les Luchot, qui sont le monde d'en bas. Donc tant que ce n'est pas gravé concrètement dans le monde d'en bas, bon, ben alors le Matan Torah n'a pas vraiment complètement eu lieu, parce que la Torah n'a pas été donnée au plus bas niveau, il n'est pas descendu jusque au niveau du Maasé. Il faut que les paroles se gravent dans le monde. Et c'est ça aussi qui nous permet de comprendre le Naasé avant le Nishma. On a dit, bon, entendre, c'est comprendre, mais au niveau le plus élevé, quoi. Naasé, c'est le fait que la parole est comprise, elle est saisie dans notre monde concret. Quand ils ont dit Naasé avant le Nishma, ils ont en quelque sorte annulé la Asiya, la matière, de telle sorte que le monde d'en bas, lui aussi, soit relié à la Metsiout, à la réalité de la Torah. Et c'est ça que nous disons quand nous disons Attah Areta la date, tu as commencé à montrer qui Hashem ou Elohim. Hashem, c'est lui qui est Elohim, et Ein Od Milvado, qui n'a rien d'autre. Ein Od. Il n'y a pas d'autre réalité que celle-là. Il n'y a que Hachem. Donc quand le Naasé vient avant le Nishma, alors ça veut dire que le au plus bas, lui aussi, participe à la compréhension de Nishma. Le Naasé d'abord, ça permet d'élever en quelque sorte le Naasé pour être partie prenante du Nishma. C'est-à-dire que il me semble que on peut essayer de comprendre ça, si ce soit pas trop abstrait en fait. On peut essayer de le comprendre de la manière suivante. On peut dire que comme ça. Naasé, on va faire. Alors bien sûr, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait à partir d'une parole initiale. Et maintenant, d'avoir fait, ça veut dire d'avoir pris cette première parole qui nous a été donnée, et d'en avoir fait ce qu'on pouvait en faire. C'est-à-dire, je l'ai exploité jusqu'à la fin. Il y avait un prof qui disait que quand on a une idée, c'est le principe de la société capitaliste, qu'il faut l'utiliser jusqu'au bout, il faut tirer tout ce qu'on peut tirer de cette idée-là, avant d'en chercher une autre. Va jusqu'au bout d'abord de tout ce qu'on peut tirer de cette idée-là. Voilà. Je crois que ça doit être vrai. En tout cas, lui, il l'a bien fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem nous a donné de la chokhma, nous a donné un dibour d'abord. On a entendu quelque chose. Si maintenant, je suis allé jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire avec ce dibour, j'ai utilisé toute la vie, toute la vitalité, toute l'énergie de ce dibourg pour en faire quelque chose. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. On pourrait presque dire, mais maintenant c'est une coquille vide, j'ai tiré tout ce qu'on pouvait tirer. C'est mon chewing-gum, je l'ai mâché, il n'a plus aucun goût, je peux le jeter. J'ai tiré tout ce qu'on pouvait tirer. Alors maintenant, puisque j'ai en quelque sorte fait cette expérience, et j'ai transformé le monde, puisque c'est nassé, j'ai transformé le monde au maximum de ce que pouvait transformer cette parole-là. Alors, la nouvelle parole que je vais entendre, elle va venir sur le monde transformé, sur le monde dans lequel j'ai fait à City. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire avec le... Et donc, elle va avoir, cette nouvelle parole, elle va avoir toute sa force. Parce qu'elle ne va pas devoir régler des problèmes que j'aurais très bien pu régler avec la précédente. D'accord ? Elle va pouvoir se consacrer à un nouveau sujet, en fait. Donc, à ce moment-là, ce que je vais comprendre avec cette... Ce que je comprends, c'est-à-dire ce que je vais pouvoir faire de cette nouvelle parole. Déjà même la réception de cette nouvelle parole, c'est une nouvelle réception. Je la reçois complètement différemment, puisque je ne la reçois pas du tout comme j'ai reçu la précédente. Je la reçois parce que, après avoir fait de la précédente tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire j'ai changé le monde. Dans ce nouveau monde, j'entends cette parole. Donc je l'entends complètement différemment de ce que j'aurais pu entendre si je l'avais entendu en même temps que la première, par exemple. Ce que j'aurais entendu sur un autre monde. Donc elle n'aurait pas tout son impact. Que, si vous voulez, c'est un peu comme la capacité que j'ai de construire réellement, à condition que j'ai déjà construit un premier étage, maintenant je vais pouvoir atteindre un niveau plus élevé. Avec les idées que j'ai de construction maintenant. Nouvelles idées. Oh. Si j'avais en même temps, j'aurais dû partir du sol, en quelque sorte. J'aurais peut-être pas pu obtenir ce que je vais pouvoir obtenir grâce au fait que j'ai déjà transformé le monde. Je pars avec un sol différent, avec un socle différent. Donc, même le dibourg que je vais entendre, le nishma, la nouvelle chose que je vais entendre, je l'entends différemment, puisque je me suis déjà transformé, et j'ai transformé le monde, grâce au naasé que j'ai fait subir, enfin, grâce à l'actualisation de toutes les potentialités du premier dibourg. C'est ça que, me semble-t-il, ce naasé venishma, je vais utiliser le premier naasé pour l'élever. Alors, ce naasé là maintenant, il est partie prenante dans le fait d'entendre le nouveau dibourg. Je l'entends à partir d'une nouvelle position qui est celle du naasé. Ce que j'ai fait, je me suis transformé, et donc maintenant j'entends différemment. J'entends différemment, si vous préférez, c'est comme... Si j'ai installé mon télescope sur une montagne, alors j'ai déjà gagné que je ne vais pas devoir traverser pour voir ce que je veux voir. J'ai déjà une épaisseur d'atmosphère que je n'aurais pas à traverser, parce que je me suis déjà mis au-dessus. Je suis mis à un endroit qui est complètement dégagé. Voilà, j'ai déjà gagné ça. Voilà. Ah non, ils l'ont pas fait justement. Ils l'ont pas vraiment. Si vous préférez, là, ça s'est fait un peu artificiellement, dans la mesure où ils sont morts et ils sont ressuscités, et cette parole était en eux maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voyaient le monde avec cette parole en eux. C'est comme si, si vous voulez, cette parole leur avait donné une vision. C'est comme si maintenant ils avaient des lunettes qui leur permettaient de voir le monde différemment. Il y a quelque chose qui est resté ? Ah, cette théorie-là. Hmm? Je sais pas. Non, mais il en faut la deuxième aussi. Non, la première et la deuxième, ils les ont perdus. Mais en même temps, ça n'a pas tenu parce qu'ils n'ont pas entendu les 10. Oui, les deux. L'idolâtrie, ils sont aussi tombés dans l'idolâtrie. Anochi, c'est pas clair si c'est une parole, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais. De ces. Il reste l'événement. Il y a quand même des choses qui sont. Rester, c'est-à-dire le Mahamad Har Sinai, la situation de s'être trouvé au Sinai, le son et lumière, en quelque sorte, celui-là, il est resté. Le contenu, on l'a perdu, semble-t-il. Et on a eu, nous on vit sur les deuxièmes Luchot, on ne vit pas sur les premiers. Sur les Luchot qu'on a reçus à Kippour. Non, c'est nous. Enfin, Moshe nous a donné. Oui, mais les premiers aussi, c'est Moshe qui les a ramenés. Il n'y a pas eu, là-bas, seulement à Kippour, il n'y a pas eu de Mahamad Har Sinai, il n'y a pas eu de Mahamad, il n'y a pas eu il n'y a pas eu le son et lumière qu'il y avait eu au premier, à Shavuot. À Kippour, il n'y a pas ça. Et il est descendu à Kippour, voilà, on a eu le cas. Voilà, je vous ai pardonné, voilà le Chot, la nouvelle version. Mais celle-là. Il reste les Shivrei Luchot. Je vous ai dit, il reste le Mahamad Har Sinai, c'est-à-dire la situation, l'événement Sinai, et il reste les Shivrei Luchot. C'est-à-dire, on a vécu, en même temps que les Luchot, on avait les brisures des premières. Donc il y avait un souvenir de ces premières Luchot. Mais elles étaient plus efficaces parce que on les avait perdues, justement. Mais on avait quand même cette, je ne sais pas si c'est une forme de nostalgie ou de mélancolie ou je ne sais pas quoi, on avait sur ces Shivrei Luchot, ces brisures. Mais Hachem lui a dit, tu as bien fait. Bien sûr, il a osé le faire. Hein. C'était mon cher Avinu. Et lui, il l'a fait pour que parce que l'existence des premières Luchot, s'il y avait les Luchot, ça aurait été une telle accusation contre les Israël qu'on n'aurait pas pu s'en remettre. Justement, il y a. C'est la trace de la parole divine en permanence dans le monde. Il a cassé. Il faut pas que le monde entier nous accuse, quoi. Sinon, le monde serait une accusation permanente. Si on dit que les paroles se sont gravées dans les Luchot et les Luchot c'est le monde, il faut casser ces Luchot. Parce que si on les casse pas, le clan d'Israël ne tiendra jamais le coup. Il aurait. Ou qu'il se tourne quelque part, il serait accusé en permanence de ce chet egel. Pour qu'il y ait un pardon possible, il faut que l'accusation se tombe un peu. Parce que le pardon, ça veut dire que je te donne une possibilité de vivre. Si je te pardonne et que tu dis oui, je te pardonne, mais tu ne peux pas vivre parce que en fait, je te pardonne, mais il y a un rappel permanent. de la faute, c'est difficile de vivre avec ça. Marie, elle dit, quand elle parle des fautes, elle dit, bon, il y a des fautes qui sont d'une certaine façon indélébiles. Quelqu'un qui adultère, il n'y a pas de différence qu'il y ait un enfant qui n'en est pas du point de vue de l'adultère lui-même. Mais s'il y a un enfant, il est un rappel permanent de l'adultère. La faute n'est pas plus grave. L'adultère elle-même, qui produise ou qui ne produise pas un enfant. Seulement quand il y a un enfant, il est là en permanence à te rappeler ta faute. Et donc, on a vu dans la Gemara, c'est insupportable. Comment tu vas pouvoir vivre avec ça? Ah, l'égoïme. Non, ça c'est l'égoïme, non. Là-bas, ça aurait été le monde lui-même. C'est pas les gens, mais le monde lui-même. Il est marqué. Voilà, on s'arrête là. Ça n'a pas marché, jeune homme. Tu vas te faire dire.